Salut Raph.
Salut Pat.
Donc, on est à 6 jours du vote et il y a des républicains là qui sont pas pour Donald Trump.
Je sais pas si tu crois à ça, le dicton selon lequel des fois on récolte ce qu'on sème là. Tu sais, Donald Trump a passé beaucoup de temps à rabaisser, en fait, à humilier des gens, de rares gens au sein de son parti qui osaient se lever contre lui, surtout dans les débuts là, de sa jeune carrière politique, au début de son administration. On a parlé beaucoup de John McCain, le défunt sénateur républicain donc de l'Arizona. Je veux qu'on commence aujourd'hui, Pat, en écoutant une publicité, un extrait de publicité en Arizona, donc l'ancien état de M. McCain, pour Joe Biden, mettant en vedette une certaine Cindy McCain, la veuve de John McCain. On commence donc en écoutant ceci.
And a president who will bring out the best in us, not the worst. Joe Biden's dedicated his life to this country and working across the aisle to get things done. Joe will always fight for the American people, just like John did.
I'm Joe Biden, and I approve this message.
Mais la question, c'est est-ce que il y a encore des électeurs républicains là qui s'ennuient de cette époque-là? Parce que M. McCain, écoute, il était fin. Il était un homme décent, mais il a perdu.
C'est vrai, il a perdu la présidence en 2008. Soit dit en passant, sa femme, celle qu'on vient d'entendre faire la narration de la pub, aurait pu devenir la première dame des États-Unis si John McCain avait été élu. C'est vrai, il a perdu la présidence. En même temps, il y a encore, je pense, un public pour ça. Et il y a au moins, Pat, un autre républicain en Arizona qui penche de l'autre côté. Parce que tout ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'était pour mettre la table pour une nouvelle pub diffusée également en Arizona aujourd'hui même, pour le compte de Joe Biden, et mettant cette fois-ci en vedette un certain Jeff Flake. Monsieur Flake était le collègue de John McCain au Sénat. L'Arizona avait 2 sénateurs républicains quand Donald Trump est arrivé, et Jeff Flake était un autre anti-Trump qui avait osé se lever contre le président Trump. Ce dernier l'avait vilipendé, a carrément détruit sa carrière politique. Flake a été essentiellement chassé de son siège, n'est même pas représenté en 2018 parce qu'il était sûr de se faire battre dans une primaire républicaine. Le président avait monté trop d'électeurs contre lui au sein du parti. Mais là, Monsieur Flake ressort 2 ans plus tard et on l'entend à l'instant.
I've never before voted for a Democrat for president, but this year, principle and conscience require me to do just that. I'm voting for Joe Biden. When you fill out your own ballot, ask yourself, who will best restore decency and civility to the White House? Who can I be proud to tell my children and grandchildren I voted for?
Je sais pas si c'est quelque chose qui te frappe dans ces deux pubs-là, là, surtout dans la dernière, là, mais c'est à quel point on frappe sur le thème de la décence, des valeurs personnelles. J'ai jamais voté pour un démocrate. Je suis pas plus un démocrate aujourd'hui, mais regardez-moi dans le blanc des yeux, là. Est-ce que vous allez vraiment pouvoir dire que vous allez être fier d'avoir voté pour réélire Donald Trump? Non. Et là, écoute, c'est quand même, là, veux pas, directement et indirectement, les deux plus importants élus d'un bastion républicain qui sort dans la même campagne électorale pour appuyer le candidat démocrate. C'est pas rien, c'est pas souvent qu'on voit ça. Et l'Arizona qui a voté au niveau présidentiel pour tous les républicains depuis le milieu des années 90, cette année menace très fortement de pencher pour Joe Biden, le démocrate. Et je t'ajoute ceci, je te disais que quand Trump est arrivé, les 2 sénateurs républicains, donc McCain et Flake, étaient des républicains. Quand Trump va quitter, les 2 sénateurs vont être des démocrates. Ça va être une première depuis 1952. Comme quoi, encore une fois, il va avoir laissé des traces et pas nécessairement entièrement joli.
OK, Raph, parlons des autres courses, parce que les Américains vont choisir un président, mais ils vont se choisir aussi des représentants au Congrès, ils vont se choisir des sénateurs, des sénatrices. En quoi c'est important de gagner la présidence, mais peut-être de gagner au moins une des chambres aussi?
C'est hyper important. On en parle plus qu'on en parlait, je te dirais, dans les médias québécois, mais on n'en parle quand même pas assez. Parce que c'est bien beau avoir la Maison-Blanche, mais c'est pas un système parlementaire comme on a ici, où le premier ministre, quand il est majoritaire, fait à peu près ce qu'il veut. T'es président des États-Unis, t'as beau être bien populaire, si t'as ne serait-ce qu'une des 2 chambres du Congrès qui est contrôlée par le parti adverse, bien, ce parti-là peut rendre ta vie carrément impossible, peut bloquer en fait tous les projets de loi que toi tu veux mettre de l'avant.
Et tes choix pour être juge à la Cour suprême aussi, Obama l'a appris à ses dépens.
À tous les postes judiciaires, les cours d'appel et même au-delà, je te dirais, des postes judiciaires, même au sein de sa propre administration, tu veux nommer telle personne secrétaire d'État, secrétaire au Trésor, peu importe, toutes ces positions-là nécessitent la confirmation d'une majorité au Sénat. Fait que, tu sais, le parti qui contrôle le Sénat peut carrément bloquer presque du début à la fin la présidence en cours. Et donc, pour M. Biden, s'il devait l'emporter, c'est capital qu'il ait un Sénat à majorité démocrate. Au niveau de la Chambre des représentants, la Chambre basse, ça semble déjà, je te dirais, être une lettre à la poste. Les démocrates sont déjà majoritaires, presque assurément, ils vont maintenir la majorité. La grosse course de la soirée au-delà de la présidence qu'il faut surveiller la semaine prochaine, c'est pour le contrôle du Sénat. Les républicains sont 53 présentement, les démocrates 47. On a 100 sièges au total, c'est pas compliqué, 2 sénateurs par État, 50 États. Sors tes maths de quoi? 3e, 4e année primaire, 2 fois 50, ça fait 100. La question, c'est de savoir, est-ce que les démocrates peuvent arriver à 50, puis à 51 sièges, ce qui représenterait une majorité. Et juste pour te donner là, un petit peu l'eau à la bouche là, pour l'élection qui est dans 6 jours, ça semble être presque acquis qu'ils vont se rendre à 49, qu'ils vont faire au moins 2 gains. Et ce qui serait leur 50e et leur 51e gain, donc les deux prochains sièges, si on veut, qui leur semblent les plus proches d'être acquis, la marge entre les candidats républicains et démocrates, on parle de courses en Iowa et en Caroline du Nord, Pat, on parle de moins de 2 points de pourcentage. Fait que les 4 prochaines années, là, carrément, vont se décider possiblement dans 2 courses sénatoriales présentement qui sont au coude à coude. Fait que la course présidentielle, ça donnera ce que ça donnera. Ça se peut que ça soit même pas si serré que ça, mais ça veut pas dire qu'on sait exactement ce qui va se produire au niveau de la gouvernance pour les 4 prochaines années. En bonne partie, ça va être déterminé par les autres courses qu'il faut garder à l'œil.
Ça va être de plus en plus palpitant. Merci, Raph.
À demain.
7h presque 48, Mario Langlois s'en vient. Et après le bulletin de nouvelles, dans à peu près 15 minutes, Jean-François Lisée va être avec nous.